Canal Academy. Vous allez entendre la chronique économique et financière de Monsieur Jacques Delarosière de l'Académie des sciences morales et politiques.
Voilà, je vais vous parler ce soir de la politique monétaire que nous appliquons en Europe et ailleurs depuis une vingtaine d'années. Depuis toujours, la politique monétaire a eu pour mission d'assurer la stabilité de la monnaie et, accessoirement, la stabilité du système bancaire et financier. Mais il y a une trentaine d'années environ, la Federal Reserve des États-Unis qui, de par la puissance de l'économie américaine, exerce une influence déterminante sur les autres banques centrales du monde, cette banque centrale américaine a décidé de soumettre sa propre politique monétaire à la réalisation d'un objectif quantitatif. Elle a fixé une règle, à savoir que l'inflation des prix à la consommation doit être légèrement inférieure à 2% l'an. En choisissant cet objectif, la Fed a, d'une certaine manière, simplifié sa politique monétaire. La quantité de monnaie et les taux d'intérêt sont déterminés par la hausse des prix à la consommation. Si l'inflation dépasse 2%, qui est l'objectif, il faut commencer à resserrer la politique monétaire. Mais si l'inflation est inférieure à 2%, il convient de relâcher cette politique. Mais une donnée structurelle a compliqué les choses, et cette donnée structurelle n'a pas été prise en compte. C'est celle-ci. Pour des raisons tenant au vieillissement de nos populations, ce qui entraîne un déclin du taux de croissance économique, une baisse de la productivité, le niveau d'inflation tend à diminuer. L'inflation est liée en effet à la croissance économique. Si la croissance se modère pour des raisons structurelles, comme celle que je viens d'évoquer, alors la politique monétaire doit en tenir compte. L'ouverture de nos marchés aux exportations de pays comme la Chine, exportations qui incorporent de très faibles salaires dans les prix, a ajouté au phénomène du déclin global du taux d'inflation. Aujourd'hui, le taux d'inflation des pays, je dirais, avancés, taux d'inflation, c'est-à-dire le taux de croissance des prix à la consommation, se situe plutôt autour de 1%, plutôt un peu moins que 1% l'an, plutôt que les 2% qui ont été choisis comme un objectif par les banques centrales. Et cela sans qu'apparaisse le spectre de la déflation si redouté par ailleurs. Mais le fait de fixer l'objectif officiel à 2% au lieu de 1%, ce qui serait plus normal, est loin d'être innocent. Cet objectif de 2% impose en effet aux banques centrales de pratiquer une politique monétaire très, très généreuse, très allante, parce que l'objectif est que l'inflation atteigne 2%. Or, l'inflation, naturellement, n'atteint pas 2%. Et pour qu'elle atteigne 2%, il faut accélérer la croissance de la politique, la croissance de la création monétaire. Et c'est cette erreur d'appréciation, choisir 2% plutôt que 1%, qui a été, à mon avis, une des grandes responsables de la création monétaire déraisonnable dont nous souffrons aujourd'hui. Je pose la question. Est-il vrai que la politique monétaire n'a joué qu'un rôle négligeable dans la genèse de la grande crise financière de 2007-2008 ? Au moment où la crise a éclaté, on disait que la politique monétaire n'était guère responsable. Et l'on continue parfois à le dire. À tort. L'explication de la crise était en gros la suivante. Les banques se sont engagées dans des opérations trop risquées. Elles étaient sans doute insuffisamment capitalisées, régulées, surveillées. Mais la politique monétaire, quant à elle, a rempli sa mission, qui était de contenir l'inflation à son niveau d'objectif de 2%. Telle était la doxa. Mais force est de reconnaître que la réalité était autre. La politique monétaire très accommodante avait permis aux agents économiques de s'endetter au-delà du raisonnable. En effet, plus les banques centrales mettent des moyens financiers peu coûteux à la disposition des banques, plus celles-ci sont en mesure de prêter. On conçoit que si les taux d'intérêt tels que fixés par les banques centrales avoisinent ou même descendent en dessous de zéro, la tentation est forte de s'endetter outre mesure, puisque ça ne coûte rien. Et sans surprise, c'est ce qui s'est passé. Quelques chiffres sont à cet égard éloquents. La dette privée américaine est passée de 100% du produit intérieur brut de ce pays en 1960 à 300% en 2007, triplant ainsi en valeur réelle en près de 50 ans. La dette globale des pays avancés, qui exclut celle des institutions financières, est passée de près de 2% du PIB en 2000 à 250% en 2007, c'est-à-dire une augmentation de 25% en termes réels en 7 ans. Quant à la dette publique, la dette gouvernementale des pays avancés, elle est passée de 20% du PIB à la fin des années 70 à plus de 80%, soit un quadruplement en termes réels. Or, cette explosion de l'endettement est en grande partie le résultat de la politique monétaire accommodante que je viens de décrire. N'oublions pas que par le biais de la Fed, la Banque centrale américaine qui a marqué sa marque le monde entier, la politique monétaire a été systématiquement expansionniste pendant les 30 dernières années. Les taux d'intérêt ont été historiquement bas et même négatifs en termes réels, c'est-à-dire quand on les défalque de l'inflation au début des années 2000. Or, l'expérience, comme le sens commun du reste, montre que la création de liquidités à bas taux encourage l'endettement. Elle favorise aussi la formation de bulles d'actifs, parce que plus on s'endette, plus on achète des titres ou des maisons, et plus les prix de ces titres et de ces maisons montent. Ces bulles d'actifs sont dangereuses, car elles finissent par éclater lorsque le marché réalise que les prix sont allés trop loin. Le problème pour les autorités est alors de freiner la baisse des actifs qui, si elle n'est pas maîtrisée, risque d'emporter tout le système financier, comme on a failli le voir en 2007-2008. On peut ajouter que si l'abus du crédit dans la phase d'exubérance entraîne peut-être à court terme un effet de stimulation de l'économie, très vite, les phénomènes de surendettement apparaissent et contribuent au renversement du cycle financier, car les emprunteurs commencent à peiner à honorer leurs échéances et les garanties commencent à être appelées. La gravité de ces phénomènes ne saurait être surestimée. Plus les banques peuvent prêter facilement et à bas taux, plus on emprunte. Plus on emprunte, plus le risque couru par le prêteur s'accroît. Plus bas sont les taux d'intérêt, plus il est difficile de faire payer à l'emprunteur à son juste prix le risque de défaut. Plus on emprunte, plus on achète des actifs et plus le prix de ces actifs augmente, ce qui entraîne l'accroissement du crédit. Si je suis plus riche, je peux emprunter davantage. Et le cycle infernal s'enclenche. Il en résulte que le système financier, en s'enflant démesurément, s'affaiblit de toutes parts. Les prêteurs, comme les emprunteurs, se chargent en risques déraisonnables. On me dira que ces affirmations sont si évidentes qu'elles ne valent pas la peine d'être rapportées. Malheureusement, il n'en est rien. L'évidence n'a pas été reconnue. Il faut bien se résoudre à cette constatation. c'est le laxisme des politiques monétaires qui a permis l'emballement du cycle financier dont les autorités ont inexplicablement sous-estimé les effets délétères sur l'économie et la société. On pourrait presque dire, et c'est là où le consensus entre guillemets des années 90 et du début des années 2000 est en cause, on pourrait presque dire que tout s'est passé comme si la politique avait été programmée pour entraîner le désastre. Elle maintenait les taux bas, en haut de cycle, elle était systématiquement asymétrique, c'est-à-dire qu'elle était peu et tardivement durcie en cas de surchauffe, mais aussitôt fortement relâchée en cas de soupçon de ralentissement économique. Elle ne visait pas à contenir la hausse démesurée du crédit. Les superviseurs ne faisaient rien pour limiter l'effet de levier d'endettement des banques. Quant à la surveillance macroéconomique, elle était pratiquement inexistante. Alors, peut-être peut-on dire, mais on ne savait pas. Impossible. Tous les chiffres que je viens de citer étaient publics. Ce n'était pas la connaissance des faits, mais le raisonnement qui était en cause. Plus grave encore, l'expérience ancienne et statistiquement établie montre que la hausse de l'endettement des ménages a toujours été une indication très sûre de la survenance de crises et de récessions. Et il y a une étude récente qui montre que les poussées de crédit aux ménages sont toujours suivies pendant une période de 3 à 4 ans après le boom par l'apparition de récessions. Celles-ci sont d'autant plus graves et d'autant plus longues que l'expansion du crédit a été plus forte. Vous le savez, la crise a commencé aux États-Unis avec l'éclatement de ce qu'on appelle la bulle des subprimes. Qu'est-ce que c'était que les subprimes ? C'était des crédits immobiliers accordés à des emprunteurs fragiles et dont les capacités de remboursement étaient douteuses. Alors vous me direz, mais pourquoi on leur a-t-on prêté ? Puisque le rôle des banques, c'est précisément de vérifier, avec toute la prudence requise, la solidité des emprunteurs. Eh bien, je vais vous dire les raisons pour lesquelles les banques ont prêté à des gens dont elles savaient qu'ils étaient incapables de rembourser leurs prêts. Les raisons sont liées au consensus que je suis en train de décrire regardant la politique économique. Le Congrès des États-Unis souhaitait étendre aux classes impécunieuses l'accès à la propriété. C'est excellent. Mais comme l'attribution d'aide budgétaire au logement n'était politiquement pas possible, alors que c'était la seule formule raisonnable. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a poussé les banques à prêter. Les banques ont alors cru trouver la recette miracle, la fameuse titrisation. Afin de ne pas trop conserver de mauvais crédits subprime à leur bilan, les banques s'étaient empressées de transformer ces crédits en titres financiers qu'elles vendaient sur le marché, d'autant plus facilement que les notes excellentes, triple A, obtenues d'agences de notation incompétentes ou intéressées, alléchaient les investisseurs. Mais cette pratique de la titrisation a très vite infecté l'ensemble des marchés financiers, qui n'ont pas mis longtemps à déprécier ces actifs dits « toxiques » quand le marché immobilier américain s'est retourné. Autrement dit, d'un épisode bancaire américain, les subprimes, les événements ont basculé sur une crise financière d'ampleur mondiale. L'intégration des marchés financiers, considérée par le consensus comme un signe de progrès et de santé, s'est révélée un facteur de contagion et de vulnérabilité. Désormais, une crise ne peut pas être contenue dans un État, celui où le feu a démarré, elle se propage aussitôt à travers le monde. Essayons, pour conclure, d'aller au fond des choses. La situation était simple et connue. Premièrement, le marché immobilier était en surchauffe. Il n'y avait qu'à regarder les prix des immeubles aux États-Unis pour le voir. Deuxièmement, on savait d'expérience que la correction allait venir et avec elle la récession. Et dans un tel environnement, il était clair qu'une politique monétaire de grande aisance n'était pas indiquée. Et pourtant, c'est celle-là qui a prévalu. En termes réels, les prix immobiliers américains ont augmenté de plus de 70% de 1996 à 2006. Cette montée ne pouvait échapper aux autorités monétaires. Tout le monde pouvait constater à ce moment-là que ces hausses de prix n'avaient rien à voir avec les données fondamentales du marché. Ni la croissance de la population, ni la hausse des revenus ne pouvaient expliquer le boom immobilier. Quant au marché de la location, il était stable et il ne signalait aucune pénurie de logements disponibles. De son côté, l'activité de la construction était florissante. Tous les signes d'une bulle financière étaient donc réunis. Ni la demande, ni l'offre sous-jacente ne pouvaient expliquer l'explosion des prix immobiliers. C'était la facilité du financement, donc l'aisance de la politique monétaire qui était la seule en cause et permettait d'expliquer ce boom spéculatif. Il y avait tellement de crédit qu'on faisait du crédit à n'importe qui pour acheter des maisons. Tous les signaux étaient au rouge. La seule politique raisonnable aurait été d'avertir le marché dès le début des années 2000 de la formation d'une phénoménale bulle immobilière et de prendre les mesures pour limiter la croissance du crédit, par exemple en relevant le taux d'intérêt ou en exigeant des candidats emprunteurs des acomptes en cash plus élevés. On aurait ainsi limité la bulle et les effets de son éclatement. Mais ce qui est incroyable et que je veux partager avec vous, les auditeurs de Canal Academy, c'est qu'à ce moment-là, rares ont été les voix qui se sont exprimées dans le sens que j'indique. Le consensus était différent. C'était « tout va bien, tout est parfait ». Et pourtant, la formation d'une bulle immobilière de 8 trillions de dollars, 1 trillion c'est 1000 milliards, n'aurait pas dû rester inaperçue de la Fed, dont l'appareil statistique est un des meilleurs du monde. Alors, je reprends l'interrogation de la reine d'Angleterre au lendemain de l'éclatement de la crise financière. Elle avait reçu dans un palais royal un groupe d'économistes de grand talent, des prix Nobel, et elle avait dit « Comment expliquer cet enchaînement qui a mené à la crise? Pourquoi n'a-t-on rien vu ?» Alors évidemment, les gens qui étaient présents à cette réception à Buckingham Palace n'ont pas su quoi dire. Moi, je vois, ayant réfléchi aux choses, deux réponses. D'abord, l'épaisseur du « consensus », entre guillemets, jointe à son caractère politiquement correct, vaguement keynésien, selon lequel il fallait à tout prix maximiser les occasions de croissance économique et ne jamais brider l'octroi de crédit tant que l'inflation était maîtrisée et qu'il restait un iota de capacité inemployée. Et la deuxième chose, c'était que cette croyance était fallacieuse. On sait depuis longtemps, avec les travaux d'un économiste américain qui s'appelait Minsky, que les excès d'endettement finissent toujours par des crises, accompagnées de chômage et de baisse des revenus. Que l'enchaînement fatal décrit par moi dans cette intervention n'ait pas été l'objet d'analyse et de mise en garde, reste néanmoins difficile à comprendre et à admettre. Je crois que plus profondément, derrière cet aveuglement collectif, demeurait une croyance non formulée, mais vivace, selon laquelle l'État et les banques centrales finissent toujours par renflouer les financiers imprudents en cas de catastrophe. C'est le fameux hasard moral qui s'est insinué au fil des années de laxisme dans les mentalités collectives. Je vous remercie pour votre attention.